Esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle thématique qui portera sur les pandémies et pour laquelle nous recevons Arnaud Fontanet, professeur du Conservatoire national des arts et métiers et responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Nous, c'est-à-dire Nicole Niesotto, elle aussi professeure au Conservatoire national des arts et métiers, mais titulaire de la chaire sur l'Union européenne, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Le virus Zika touche aujourd'hui particulièrement les pays d'Amérique latine et notamment le Brésil, pays dans lequel 440 000 à 1 300 000 cas sont suspectés et ont été rapportés depuis mars 2015. Et une épidémie de ce virus avait déjà fait rage à moindre échelle en Polynésie française entre 2013 et 2014. L'Organisation mondiale de la santé, selon qui le virus constitue une urgence de santé publique mondiale, a pointé du doigt cette situation, rendue encore plus préoccupante par la tenue des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Le gouvernement fédéral a décrété l'état d'urgence sanitaire en décembre dernier et il a déployé 220 000 soldats en février pour intensifier la lutte contre Zika. L'infection liée au virus, difficile à détecter en raison de ses symptômes semblables à ceux de la dengue ou du chikungunya, se transmet à travers les piqûres du moustique tigre installé un peu partout dans le monde. Le germe Zika, qui appartient à la même famille que la fièvre jaune, la dengue, l'hépatite C ou encore la peste porcine, est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes dont la transmission au fœtus peut engendrer des anomalies dans le développement cérébral, particulièrement des microcéphalies. Le virus peut aussi provoquer d'autres atteintes neurologiques. Il est notamment à l'origine de l'augmentation du nombre des syndromes de Guillain-Barré, une forme grave de paralysie des membres avec atteinte respiratoire. Selon une étude parue dans la revue scientifique The Lancet en janvier 2016, 10 pays de la zone tropicale du continent américain sont affectés par ce virus et des premiers cas ont été recensés en France. Il n'existe actuellement aucun vaccin pour prévenir l'infection, ni de médicaments pour en guérir, et les mesures prises n'ont pas empêché jusqu'ici la propagation du virus. Arnaud Fontanet, vous soulignez que maintenant que les moustiques à l'origine de Zika sont installés dans des zones tropicales et tempérées, ces épidémies vont se développer. En mai dernier, la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, a évoqué la création d'un nouveau programme consacré aux urgences sanitaires pour pallier les menaces épidémiques dans le monde. Ces épidémies mondialisées ont mis à jour par le passé les failles de préparation dans les pays concernés et la lourdeur bureaucratique de l'organisation, qui n'a pas su réagir à temps lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest au printemps 2014 ou lors de la pandémie grippale de 2009-2010. Dans le cadre des engagements sur les objectifs du millénaire pour le développement, l'action de l'OMS a connu des succès certains en Afrique, notamment où 15 millions de personnes séropositives ont aujourd'hui accès à des médicaments antirétroviraux salvateurs contre 690 000 en 2000 et où le nombre de morts liées au paludisme a chuté de 60%. Arnaud Fontanet, vous êtes docteur en médecine, en santé publique et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris. Vous êtes également professeur titulaire de la chaire santé et développement au Conservatoire national des arts et métiers, je l'ai dit. À travers vos travaux de recherche, vous avez cherché à répondre aux besoins de santé des populations vulnérables dans les pays du Sud. Vous avez notamment dirigé une unité de recherche sur différentes épidémies comme le sida en Éthiopie, l'hépatite C en Égypte et le SRAS en Chine. L'enjeu de vos recherches est de fournir des données solides sur lesquelles les autorités publiques pourront se baser afin pour décider de la meilleure gestion sanitaire capable de faire face à une épidémie. Comment, Arnaud Fontanet, pouvons-nous comprendre la continuité d'une épidémie comme le virus Zika, qui se propage plus ou moins selon les zones? Comment anticiper les risques? Comment élaborer différents scénarios? Et comment l'OMS pourrait-elle ajuster ses politiques de prévention pour que les pays soient plus et mieux préparés en cas d'épidémie? Voilà quelques-unes des questions dont nous espérons que vous allez les éclairer, tout en vous laissant, selon une tradition propre à cette émission, le choix de commencer par l'une de celles-là ou par une autre. Arnaud Fontanet.
Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, le virus Zika, bon, je pense qu'on peut effectivement commencer par cette épidémie et nous montre d'abord que le danger vient toujours là où on ne l'attend pas. On a beaucoup d'équipes qui travaillent aujourd'hui sur l'anticipation des épidémies, qui font des inventaires des virus que vous trouverez dans des réservoirs habituels, qui peuvent être les chauves-souris, les oiseaux migrateurs, qui essayent de voir quel virus serait susceptible de passer à l'homme et éventuellement de déclencher des épidémies. On sait aujourd'hui que 2/3 des épidémies liées à des virus nous viennent effectivement du monde animal. Et à chaque fois, on est pris par surprise. Qui aurait pu anticiper que ces coronavirus des chauves-souris donneraient un jour en Chine une épidémie qu'on a appelée le SRAS, qui était des syndromes pulmonaires graves, parce que étaient consommés dans les restaurants exotiques de Canton ces petits carnivores qu'on appelle les civettes palmistes masquées et qu'elles allaient se trouver être le chaînon entre les chauves-souris et les hommes, personne n'aurait pu anticiper cela. Après, on a effectivement vu arriver, maintenant en Arabie Saoudite, avec des chameaux, là encore un deuxième vecteur d'autres types de coronavirus responsables du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et puis la grippe qu'on attendait tous en Asie nous est arrivée par le Mexique, la pandémie de H1N1 en 2009. Le virus Ebola, connu de l'Afrique centrale, a explosé finalement en Afrique de l'Ouest. Donc tout ça nous montre que... pour nous, il est très difficile d'anticiper. Et le dernier exemple est le virus Zika, qui est un arbovirus, donc un virus transmis par des moustiques. Hein, le moustique Aedes aegypti, qui vit dans les zones tropicales, et le moustique Aedes albopictus, qui est le moustique tigre, et qui, lui, vit dans les zones tempérées. Et on n'avait jamais vu, jusqu'à présent, des arbovirus qui soient capables de donner des complications neurologiques, telles que les transmissions via des femmes enceintes à des fœtus et des complications très graves. Transmission par voie sexuelle avec des arbovirus, on n'avait jamais vu ça non plus. Donc on va de surprise en surprise. Tout ça nous amène à dire qu'aujourd'hui, il faut continuer les travaux d'anticipation, mais il faut surtout être capable d'être très réactif. Car ce qui est important, c'est d'être capable de détecter partout dans le monde une épidémie à son début, envoyer des équipes, voir s'il ne s'agirait pas d'une maladie connue qui se présente de façon un petit peu atypique, ou s'il ne s'agit pas d'un nouveau phénomène où là, il faudra découvrir un nouveau virus. Et c'est cette surveillance mondiale qui est vraiment d'actualité parce que, une fois de plus, on est toujours pris en défaut par rapport à nos stratégies d'anticipation habituelles.
Nicole Nisotto.
Oui, moi, justement, je voudrais poursuivre et vous interroger sur cette notion de menace. Pour le Zika, l'OMS avait parlé donc d'état d'urgence mondiale. Quand on réfléchit aux questions de sécurité internationale, généralement on distingue les menaces militaires, interétatiques ou étatiques, les menaces technologiques, notamment aujourd'hui la cybersécurité, et puis ce qu'on appelle les menaces globales, c'est-à-dire celles qui ne sont pas forcément intentionnelles, mais qui ont une capacité de mettre en cause la survie même de l'espèce, voire la survie de la planète. Et parmi ces menaces globales, généralement, les stratèges considèrent qu'il y a le climat d'une part, donc le réchauffement climatique, et les grandes pandémies. Et dans tous les livres blancs de sécurité et de la défense, maintenant, les pandémies sont érigées au rang de menaces potentielles pour l'humanité. Alors, pour le climat, ça c'est vérifié. On a maintenant une communauté internationale qui se préoccupe de préserver la planète. Pour les pandémies, moi, je m'interroge. Je m'interroge sur la notion de menace mondiale qui peut être accolée aux pandémies. Vous l'avez dit vous-même, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un effet de surprise très très grand. Il y a un alarmisme tout de suite très grand également. Et puis finalement, il y a une politique de soins qui est relativement efficace depuis en tout cas une vingtaine d'années. Et donc, ma question est-ce que véritablement il pourrait exister un virus nouveau ou une transformation de bactéries, on parle maintenant de bactéries résistantes à toutes les antibiotiques, qui pourraient véritablement mettre en danger non seulement la survie de l'humanité, mais également la mondialisation telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire obligée à fermer les routes, les ports, les avions, etc. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça fait partie de l'imaginaire un peu délirant mais nécessaire des gens qui se préoccupent de la sécurité? Et avec en annexe à cette question, est-ce que l'idée de manipulation de virus, de terrorisme bactériologique vous paraît une pure chimère ou est-ce que les franchissements de barrières permettent de penser que ce serait possible un jour?
Arnaud Fontanet.
Alors la caractéristique effectivement des épidémies liées aux maladies infectieuses, c'est leur soudaineté. Et c'est ça qui fait finalement la menace. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre de morts que vous aurez liées à une épidémie, qui pourrait être une façon de comptabiliser la gravité d'une maladie, et le caractère déstructurant qu'elle peut avoir sur nos sociétés. Quand vous regardez le SRAS, par exemple, il n'y a eu au final que 800 morts sur 6 mois. Chaque jour, 3000 personnes meurent du sida. 2500 meurent du paludisme. Donc on est dans des ordres de grandeur totalement différents. Mais le SRAS, c'était un virus respiratoire. Donc déjà, une contagion qui est relativement facile. Personne ne pouvait se mettre à l'abri. Il était présent à Hong Kong très vite, qui est un des hubs planétaires qui fait que en 2 jours, il s'est retrouvé dans 6 pays à partir du moment où il avait été transmis à l'hôtel métropole de Hong Kong. Et nos sociétés, évidemment, deviennent extrêmement inquiètes tout de suite parce que la menace est partout avant qu'on ait pu vraiment en évaluer les risques. Et du coup, peuvent être amenés à prendre des mesures disproportionnées. Tous les scénarios qui ont été faits, notamment aux États-Unis, de que se passerait-il en cas d'épidémie, révèlent que finalement, vous allez avoir une panique sociétale. Parce que les gens vont vouloir avoir accès aux quelques doses de vaccins qui seraient disponibles au début, etc. La société se paralyse, les transports sont arrêtés, vous pouvez également les métros, les écoles ferment. Donc on a toute une série de mesures en cascade qui pourraient complètement paralyser nos sociétés par rapport à un nombre d'individus morts au final qui peut être finalement très faible. Et des maladies qui se sont propagées de façon beaucoup plus insidieuse, comme le sida, une incubation de 10 ans, ou etc., finissent par faire beaucoup plus de morts que ces maladies qui sont à démarrage brutal, et où, au début, on est en train de se dire qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, maintenant, est-ce que le supervirus, etc., existe? Il est certain qu'on est... celui qui nous fait le plus peur aujourd'hui, c'est le virus transmis par voie respiratoire, notamment le virus de la grippe, pour 2 raisons. D'abord, parce que transmission par voie respiratoire, tout le monde est exposé. Donc, on peut imaginer des chaînes de transmission qui se développent très vite. Et parce que les temps d'incubation sont courts. Vous avez 3 jours entre chaque génération de patients dans une épidémie de grippe. Donc, quand ça commence à partir, ça va très vite. Et on sait, quand un nouveau virus de la grippe est introduit en population, comme c'est arrivé 4 fois au XXe siècle, qu'un tiers de la population mondiale va être touchée. On a une transmission considérable. Le virus H1N1 en 2009 a touché 2 milliards de personnes autour de la planète. Heureusement pour nous, c'était un virus bénin. Et du coup, il y a eu finalement peu de morts. Alors c'est très difficile de les comptabiliser parce que ce sont des morts indirectes. Ce sont des gens qui vont faire des surinfections pulmonaires, qui vont précipiter un infarctus du myocarde, des choses comme ça. Mais on est... donc nous, notre inquiétude aujourd'hui, elle est effectivement par rapport au scénario catastrophe du virus respiratoire facilement transmissible et qui lui aurait ce qu'on appelle un taux de létalité, une proportion de personnes infectées qui décèdent élevée. Parce que là, je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés à empêcher sa propagation, comme l'ont montré les pandémies grippales. Alors après, pour répondre à votre dernière question sur les virus manipulés en laboratoire, etc., ce que nous, on a l'habitude de dire, c'est que le plus grand bioterroriste, c'est la nature. Il y a chaque jour, dans tous les coins du monde, des virus qui nous viennent du monde animal, qui cherchent à pénétrer chez l'homme. Et heureusement, il y a quelques défenses naturelles qui sont aussi le fait que les virus n'arrivent pas à s'adapter à la pénétration chez l'homme et qui font que toutes ces petites infections sont ce qu'on appelle abortives et ne donnent pas naissance à une épidémie. C'est quand le hasard des mutations fait que ça y est, un virus s'adapte, qu'on a finalement une transmission.
Dans la préparation, comme dans la lutte contre les épidémies dont vous venez de parler, dont nous venons de nous évoquer avec vous, le rôle de l'OMS est important. La critique du fonctionnement de l'OMS, notamment de sa bureaucratie, est aussi importante. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre propre vue de cette grande organisation internationale, de son fonctionnement et de ses améliorations possibles?
Alors l'OMS, c'est une organisation très importante parce que quand vous allez en Afrique, en Asie, dans tous ces pays, vous rencontrez les ministres de la Santé, la première chose que ces ministres vous demandent, c'est qu'est-ce que dit l'OMS? Et tant qu'il n'y a pas l'OMS n'a pas édicté une recommandation, ils vont être un peu sur la défensive en se disant « attention », etc. Donc c'est vraiment, la parole de l'OMS est respectée et attendue par tous, et à ce titre, elle joue un rôle très très important. La difficulté, c'est que, un, avant de se prononcer, l'OMS va effectivement vouloir réunir suffisamment d'informations parce qu'elle sait qu'elle est écoutée partout et ne voudrait pas être contredite par la suite. Je prends l'épidémie de Zika. Je faisais partie des équipes qui ont eu accès aux données de Polynésie française et très tôt, on a compris les complications liées à ce virus. On les a tout de suite communiquées à l'OMS. J'étais en contact très régulier avec eux. Mais ils ont souhaité, et c'est tout à fait normal, réunir 3-4 avis d'autres équipes qui travaillaient sur le même virus dans d'autres endroits du monde avant de se dire et de déclencher le 1er février cette urgence de santé publique de portée internationale. L'autre problème de l'OMS, c'est qu'ils ont, évidemment, c'est une organisation très politique aussi, ils ont en face d'eux des pays qui vont être réticents à annoncer qu'ils ont un virus qui est susceptible de se propager parce que économie, parce que tourisme. Et puis enfin, il y a une difficulté de fonctionnement de l'OMS qui est liée à son siège à Genève et ses bureaux régionaux. Et la communication et le fonctionnement entre l'OMS Genève et l'OMS, par exemple, Afrique, au moment de l'épidémie d'Ebola, a certainement été une source de retard dans la prise des décisions. Donc là, il faut franchement améliorer la qualité de fonctionnement et d'interaction avec les bureaux régionaux.
L'épidémie en Polynésie française, c'était 2013-2014. Et l'urgence sanitaire, c'est février 2016. C'est un délai qui vous paraît raisonnable?
Alors, ce qui se passe d'abord,
je ne dis pas qu'il vous paraît souhaitable. Je vous dis que la question est-ce qu'on peut faire mieux, ou est-ce qu'il fallait faire mieux, ou est-ce que c'est une prudence
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'épidémie de Polynésie française touchait une population relativement limitée. On parle de 270 000 personnes. Donc, on avait un dénominateur relativement faible pour observer des complications qui sont graves, mais heureusement rares.
Oui, c'est comme pour les sondages, il faut que l'échantillon soit proportionné.
Ce qu'on a vu sur la Polynésie française, c'était des formes adultes de Guillain-Barré, qui sont donc ces paralysies ascendantes, hein, qui font que les patients peuvent, après une semaine, ne plus être en mesure de respirer parce qu'ils ont les muscles de la cage thoracique qui ne fonctionnent plus et qui vont donc en réanimation. Il y en a eu 42 au total. C'était à peu près 20 fois plus de ce qu'ils voyaient habituellement. C'était alarmant, mais la vraie problématique du Zika aujourd'hui, elle tourne autour des complications chez les enfants nés de mères infectées pendant la grossesse. Ce sont ces fameuses microcéphalies, des enfants qui naissent avec des petites têtes, et les complications neurologiques. Et je pense que l'alerte qui a vraiment motivé l'OMS à... Je n'ai pas précipité les choses, mais demander à la communauté scientifique de s'organiser pour établir le lien entre le virus Zika et les complications possibles était autour des microcéphalies. Or, on ne les avait pas vus en Polynésie française parce qu'il y en avait eu trop peu au moment de cette épidémie. Et c'est quand le virus est arrivé au Brésil, où là vous aviez une population beaucoup plus importante, que ces complications rares ont fini par être visibles.
François Bujon de l'Étang.
Oui, je voudrais poursuivre la question que Philippe vous a posée sur l'OMS. L'OMS fait partie du paysage international, c'est la famille des Nations Unies, c'est une organisation spécialisée des Nations Unies. Mais d'une façon générale, si on regarde ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, avez-vous l'impression que les préoccupations de santé, d'épidémiologie, de grandes menaces à la santé, tiennent une place importante dans la gouvernance mondiale? Celle-ci, traditionnellement, se concentre sur les crises politiques, elle s'est occupée aussi des grands problèmes économiques, de l'aide au développement, mais sous l'angle économique plutôt. Elle n'est venue que assez récemment à se préoccuper des problèmes dits globaux. Le climat, ça c'est l'exemple type par exemple. La santé occupe-t-elle dans les préoccupations de nos gouvernants à l'échelon international la place qu'elle devrait occuper compte tenu des menaces qu'elle fait peser sur la santé publique? Au fond, elle occupe la même place que l'économie. L'économie ou la santé, ce sont les problèmes qui intéressent tout le monde, auxquels personne ne peut être indifférent. Mais je prends par exemple le cas des virus que vous avez évoqués, qui tous viennent des zones tropicales ou de pays en voie de développement dans l'ensemble. On a toujours abordé jusqu'à présent les problèmes du développement sous l'angle économique. En fait-on suffisamment sur le plan de la santé publique, et celle-ci occupe-t-elle dans la gouvernance mondiale et dans les préoccupations de nos gouvernants la place qu'elle devrait occuper?
Arnaud Fontanet.
Non, vous avez tout à fait raison, et la situation continue de la même façon, au sens où une maladie est arrivée finalement au siège des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, ça a toujours été sous l'angle économique. Oui. Quand le sida a été déclaré une urgence de santé publique pour les États, c'était à peu près en 2000, je pense, hein, autour des années 2000. Et c'est parce que les économistes avaient démontré l'impact qu'une épidémie qui touche une population sexuellement active, mais aussi économiquement active, l'impact que cette épidémie aurait sur l'économie des sociétés. C'est ce qui est en train d'arriver avec les résistances aux antimicrobiens, puisque en septembre 2016, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le sujet va être mis sur la table. Mais qui est-ce qui a poussé finalement cette thématique. C'est Jim O'Neill qui est donc un expert anglais, économiste de la santé, un même économiste, c'est lui qui avait fait le BRICS, hein, c'est pas le et qui a été mandaté pour faire finalement une évaluation de que représente la résistance antimicrobienne pour nos sociétés. Et évidemment, son évaluation est très chiffrée, et c'est ce qui a permis d'amener cette thématique à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, on a effectivement un angle très économique dans la façon d'appréhender aujourd'hui la santé et son impact sur nos sociétés. Je le déplore à titre personnel, bien sûr. Mais je pense aussi que ces virus émergents, par leur caractère très déstructurant pour nos sociétés, les coûts qui en résultent, ont cette capacité d'atteindre effectivement les sommets de la gouvernance, parce que on a vu avec le SRAS par exemple un coût qui a été évalué a posteriori à 90 milliards de dollars. Alors peut-être qu'aujourd'hui ces chiffres paraissent peu par rapport à tout ce qu'on entend, mais ça reste quand même un chiffre conséquent. Puis l'aéroport de Hong Kong a été fermé un mois et Cathay Pacific a failli déposer son bilan. Donc on voit quand même que pour un petit virus de 800 qui a tué 800 personnes, c'était un beau succès.
Jean-Louis Bourlange,
je voudrais vous interroger sur l'inégalité devant ces menaces. On a quand même le sentiment que toute une partie de la population mondiale est infiniment plus vulnérable à tout cela qu'une autre partie, notamment que la partie développée. Est-ce que vous avez l'impression que cette relative impression de sécurité que nous pouvons avoir dans les pays comme les nôtres, dans les pays européens ou l'Amérique du Nord, est justifiée, ou c'est un sentiment tout à fait illusoire et qu'on peut être ravagé par des pandémies extrêmement terrifiantes dans les années qui viennent? Et à quoi attribuez-vous, à quoi peut-on attribuer cette inégalité? Est-ce que le facteur fondamental, c'est le facteur climatique, la différence entre notamment le climat tropical et le climat tempéré? Est-ce que c'est le sous-développement économique? Est-ce qu'il y a une vulnérabilité particulière des populations pauvres parce qu'elles sont pauvres? Est-ce que c'est le sous-développement politico-administratif? Est-ce que c'est l'insuffisance de l'aide internationale? Est-ce que notamment un développement de la solidarité internationale au-delà des fonctions de diagnostic et d'alerte de l'OMS, est-ce qu'un développement de ces solidarités permettrait effectivement de faire face à ces menaces d'une façon un petit peu moins inéquitable?
Arnaud Fontanet.
Je pense que le grand clivage entre le Nord et le Sud, hein, pour dire les choses simplement, c'est la faiblesse des structures de santé dans les pays du Sud. Aujourd'hui, vous prenez une maladie comme le paludisme, il y a un test diagnostique qui coûte 1 euro, il y a un traitement efficace dans 99% des cas qui coûte 1 euro, et pourtant il y a 600 000 personnes, essentiellement des enfants, qui meurent, beaucoup en Afrique, chaque année, de cette maladie. Donc les questions, j'ai envie de dire, scientifiques ont été résolues. Hein, le test existe, le traitement existe, il est abordable. Et pourtant, les enfants qui souffrent de paludisme n'arrivent pas dans les centres de santé où ils pourraient être proprement diagnostiqués et traités. Donc là, on est dans un système où il y a par rapport à ces populations vulnérables, toutes les questions autour de la compréhension que les populations ont de ces maladies, des risques, les mères qui vont être en charge de ces enfants, qu'est-ce qu'elles savent du paludisme, un enfant qui a une fièvre, ont-elles compris l'urgence? Elle arrive à un centre de santé d'un petit village africain, la personne qui est responsable du dispensaire est pas là, et puis ils ouvrent l'armoire, et puis il n'y a pas le traitement. Or, tout existe. Donc on est vraiment sur une très grande vulnérabilité de ces systèmes de santé, ce qu'on a vu aussi avec l'épidémie d'Ebola. C'est pas un hasard si elle s'est développée en Guinée, Sierra Leone et Liberia, qui sont parmi les pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest, deux pays sortant de d'instabilité civile considérable.
Ce que vous donnez comme exemple sur le paludisme donne a priori à penser, je parle de façon très incompétente, excusez-moi, mais donne a priori à penser que l'investissement qu'on devrait faire est quand même relativement limité. Certes, il y a tout un problème de diagnostic, mais le coût est relativement limité du traitement. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quand même quelque chose qui, la communauté internationale, comme on dit de façon un petit peu abusive, est-ce que un investissement relativement limité ne permettrait pas de réduire assez sensiblement des inégalités aussi ravageuses?
Arnaud Fontanet.
Je pense que c'est effectivement, mais comme je disais, ça revient vers les systèmes de santé, c'est de la formation des personnels de santé, et puis c'est mettre en place des structures qui seraient capables de prendre en charge les populations dans des zones un peu plus reculées. On a quand même la moitié de la population africaine et rurale, et leur accès aux soins est très limité. En recherche scientifique, là, malheureusement, le clivage est-ce que c'est une maladie qui touche les pays du Nord ou non? Vous prenez le sida, qui est une maladie donc qui est née en Afrique centrale, qui s'est propagée à travers le monde. Parce qu'elle a touché les pays du Nord, il y a eu à la fois une mobilisation de la communauté des chercheurs, mais également les moyens pour la recherche qui nous ont été fournis par les gouvernements, parce que ils se sentaient extrêmement concernés aux États-Unis, en Europe, etc. Vous avez d'autres maladies d'Afrique centrale qui vont pas avoir l'ampleur du sida, mais qui touchent des centaines de milliers de personnes, et dont on n'a rien à faire, et pour lesquels il est extrêmement difficile de travailler, parce que pour nous chercheurs, si on n'a pas de crédit, de financement pour la recherche, on est très très démunis.
Restons un instant sur cette épidémie du sida, vous avez beaucoup travaillé à son sujet. Deux questions, je crois qu'il faut d'ailleurs les traiter l'une après l'autre. La première sur l'attitude des laboratoires pharmaceutiques. À quel moment est-ce que les laboratoires pharmaceutiques sont-ils entrés dans une politique de lutte contre le sida? Et est-il exact qu'ils ont d'abord considéré que, dans les pays en voie de développement, leur présence n'était, leur action n'avait d'intérêt que dans la mesure où elles trouvaient un financement qu'elles avaient fixé très haut? Puis la deuxième chose, c'est quelles sont les résistances dans la population? Parce que l'un des moyens de traiter le sida, c'est de le prévenir. L'un des moyens de le prévenir, c'est la contraception. Et la contraception n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, recommandée par toutes les religions. Mais commençons, si vous voulez bien, par l'attitude des laboratoires pharmaceutiques qui a été beaucoup critiquée. Et même au plus haut niveau.
Alors, en fait, l'attitude est... pour ma part, j'ai une position qui est assez ambivalente. À la fois, je suis très admiratif de la capacité que l'ensemble de la communauté scientifique, qu'elle appartienne au monde de la recherche institutionnelle ou au monde des compagnies pharmaceutiques, la rapidité avec laquelle des traitements ont finalement été mis au point... Et ça a été vrai pour le sida. En 95, les premières trithérapies sont devenues disponibles. Donc 12 ans après la découverte du virus, ça a été encore plus vrai pour l'hépatite C, où bénéficiant de toute la recherche qui avait déjà été faite sur les antiviraux, il y a eu en peu de temps l'arrivée de traitements qui guérissent maintenant l'hépatite C. Alors après, donc on a absolument besoin de l'action de tous, parce que les laboratoires pharmaceutiques peuvent avoir des moyens que certains chercheurs du monde de la recherche institutionnelle ne peuvent pas avoir. Après, il y a évidemment le problème de marché. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même un effort qui a été mené par beaucoup de partie de la société pour faire le pont finalement avec les compagnies pharmaceutiques, avec le monde de la recherche institutionnelle, les associations de patients, avec des moments de tension forte qu'on a vu quand il y a eu des procès sur les brevets en Afrique du Sud pour rendre accessibles en Afrique les traitements du sida qui étaient hors de prix. Et qui finalement le sont devenus. Aujourd'hui, je pense que la moitié des personnes qui ont besoin d'un traitement pour le sida en Afrique le reçoivent, ce qui est quand même un succès. Et on l'a vu aussi récemment, et ça a été anticipé pour les traitements de l'hépatite C, où pour les pays du Sud, les compagnies qui développaient ces nouveaux traitements les ont rendus accessibles par la fabrication de génériques en Inde, et les gouvernements peuvent contracter avec ces génériqueurs en Inde, et maintenant avoir des traitements beaucoup plus facilement. Je parle de l'Égypte, que ça n'est possible aujourd'hui d'ailleurs en Europe et aux États-Unis où les coûts des traitements restent totalement exorbitants. Donc il y a. Mais ce qui est très important pour moi dans toute cette histoire, c'est le dialogue. Et j'ai eu l'occasion, à propos de l'hépatite C, de participer à des discussions avec à la fois un laboratoire qui s'appelle Gilead, qui avait développé le sofosbuvir, qui est le traitement miracle de l'hépatite C, le gouvernement égyptien. Et puis les ONG, Médecins Sans Frontières, très actifs, des Treatment Action Group à New York, qui avait été un des lobbyistes sur les traitements du sida pour les pays du Sud, qui s'en est mêlé. Et ce qui est très important de tout ça, c'est de maintenir le dialogue. Maintenant, pour l'hépatite C, j'ai envie de dire, la problématique, elle est plus dans les pays du Nord. C'est une exagération de dire ça, mais elle reste très présente dans les pays du Nord parce qu'il y a des traitements à 70 000 euros qui sont absolument pas compatibles avec ce que nos systèmes de couverture sociale peuvent rembourser. Tandis que dans les pays du Sud, l'accès au traitement reste toujours aussi difficile que celui que je décrivais tout à l'heure, quand je prenais l'exemple du paludisme où le traitement est à 1 $ et on n'arrive pas à le donner. Mais finalement, un gouvernement qui a la volonté politique de faire venir les traitements de l'hépatite C, comme l'a eu l'Égypte, a réussi et traite aujourd'hui 100 000 personnes par an en Égypte avec des traitements qui sont hors de prix dans d'autres pays.
Nicole Nizzetto.
Oui, moi je voudrais revenir sur la nouveauté de cette question des pandémies, mais vraiment vous interroger sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau, parce que finalement, des grandes épidémies mondiales, on en a eu, et de très sévères, et sans remonter jusqu'à la peste noire, encore la grippe espagnole, je crois entre 30 et 50 millions de morts entre 1918, à une époque où il n'y avait pas tous ces avions, où on ne circulait pas aussi facilement sur la planète. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui pour faire des pandémies un sujet de préoccupation mondiale de ce type? Est-ce que, justement, c'est à cause de la révolution des moyens de transport qui crée un risque de propagation quand même très élevé? Est-ce que la nouveauté est plutôt positive, c'est-à-dire qu'à force de partager l'information, on arrive à prévenir, voire à soigner très très vite? Mais qu'est-ce que la mondialisation change à cette question des grandes épidémies mondiales? Et puis, alors, une petite question sur le sida. Je crois comprendre que je ne sais pas si c'est les Nations Unies ou l'OMS, mais pensent pouvoir éradiquer le sida à l'horizon 2030. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous croyez à cela? Donc, deux questions.
Alors, commençons par la dernière, si vous voulez bien, Arnaud Fontanelle.
Oui, sur le sida, ça me paraît très optimiste. Je pense que le discours aujourd'hui est vers l'élimination d'un certain nombre de maladies et il y a un petit peu de surenchère parce que comme on parle de l'élimination de la tuberculose, on veut aussi qu'on parle de l'élimination du sida, etc. Mais ça, pour à l'échelle 2030, non, on aura certainement encore un nombre très élevé. Non, tuberculose également, on a d'énormes difficultés avec sur le traitement de la tuberculose parce que ce qui est aussi un traitement long, hein, c'est comme le sida, ce sont des traitements, mais la tuberculose 6 à 9 mois, le sida traitement à vie, donc on aura vraiment beaucoup à se battre pour arriver à les éliminer. Et avec la tuberculose en plus, des formes très résistantes qui bientôt échapperont à toute forme de traitement. Alors, sur les pandémies, il y a deux facteurs essentiels. Il y en a un qui est la population, hein, l'augmentation de la population multipliée par 4 au XXe siècle, hein, 6 milliards à la fin en 2000, 7 milliards aujourd'hui, et la mobilité, qui est... Pour reprendre l'exemple de la peste, il avait fallu 6 mois pour que la peste voyage de Tripoli au Liban jusqu'à Marseille. Je vous citais tout à l'heure l'exemple du SRAS, où en 48 heures, le virus était dans 6 pays différents. Donc on est sur des échelles de temps qui sont plus du tout les mêmes et qui font que le contrôle de ces épidémies devient très difficile. La deuxième chose quand même, qu'il faut dire, c'est qu'on est capable de détecter et documenter beaucoup mieux qu'avant. Donc je prends l'exemple du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui donne des épidémies relativement limitées, sévères, avec quand même à peu près 50% des patients qui décèdent. Je pense qu'une épidémie comme celle-là, on l'aurait pas connu. On serait passé à côté si on n'avait pas les outils diagnostiques aujourd'hui qui permettent de dire ces cas de forme pulmonaire sévère, etc., sont liés à tel virus, etc. Avant, on aurait dit, tiens, il y a eu une épidémie d'infection respiratoire grave, peut-être des grippes un peu spéciales dans un certain endroit. Donc il y a aussi toute cette capacité de détection et de documentation qui font que, voilà, on en parle beaucoup plus. Si je prends un virus comme le virus Zika, finalement, si on n'avait pas les systèmes de surveillance un petit peu élaborés, les 1000 enfants atteints de microcéphalie au Brésil auraient pu passer sous le radar et les syndromes de Guillain-Barré très certainement. Donc il faut voir aussi qu'on a aujourd'hui des capacités de détection qui nous rendent capables de détecter ces phénomènes. On se pose la question d'ailleurs sur le virus Zika qui vient d'Afrique centrale en 1947, hein, la première identification. S'il n'avait pas circulé un peu en Afrique et n'aurait pas été responsable de cas de microcéphalie ou de syndrome de Guillain-Barré dans les années 50, en Asie dans les années 60-70, et tout ça aurait été complètement dilué dans un environnement de morbidité sévère et qui fait qu'on ne les aurait pas détectés. Hein, c'est pas exclu.
François Bujon de l'Étang.
Je reviens un instant sur le problème de la relation avec l'industrie pharmaceutique qu'on a touché tout à l'heure. comment les autorités de santé peuvent-elles coopérer de façon raisonnable avec l'industrie pharmaceutique? Vous parlez de dialogue et des vertus du dialogue, c'est évident, bien sûr. Mais quelle est la bonne solution, au fond? Le cas de l'hépatite C en Égypte, que vous connaissez de façon particulièrement intime, si j'ose dire, est extraordinaire. On a réussi en Égypte à mettre à la disposition des malades un traitement qui ne coûte rien, ou qui est très très accessible, qui coûte très peu de choses. Le même traitement, dites-vous, dans les pays développés, dans nos pays, coûte des fortunes. Comment se fait-il, après tout, le médicament doit être le même? Pourquoi est-il quasiment gratuit en Égypte et coûte-t-il des fortunes en Europe occidentale?
Arnaud Fontanet.
Alors, la problématique, c'est que la façon avec laquelle le coût des traitements est fixé est totalement déconnecté du coût de production de la molécule. Mmh. Si je prends l'exemple de l'hépatite C, le traitement jusqu'à il y a 5 ans reposait sur interféron péguilé-ribavirine, ça durait un an, 25 000 euros. Mmh. Puis il y a eu une amélioration avec des inhibiteurs de protéases, mais on est passé à 45 000 euros parce que le taux de guérison qui était de 50% est passé à 70%, mais toujours sur un traitement d'un an. Puis sont arrivés ces traitements miracles, qui maintenant ont des taux de guérison de 95% avec des traitements qui ne durent seulement 3 mois, et puis beaucoup mieux tolérés. Et finalement, l'industrie pharmaceutique dit à chaque amélioration, on va augmenter le coût. Donc, on se retrouve avec un traitement qui vaut à 70 000 euros pour les nouveaux...
Le prix
auquel il est vendu. Oui, en revanche, le coût de production de ce sofosbuvir, qui est aujourd'hui proposé à 60 000 euros parce qu'il guérit mieux et en moins de temps, avec moins d'effets indésirables que les prédécesseurs, n'est que 250 euros. Donc, on a des marges qui sont devenues totalement disproportionnées. Voilà. Un coût de production à 150 euros vendu à 60 000 euros parce que le prix a simplement été fixé par rapport aux bénéfices additionnels vis-à-vis du produit qui existait avant. Et ces prix de vente sont totalement déconnectés du coût de production du médicament. Alors, je pense que pour les gouvernements, ce qui est important, c'est de se regrouper, de négocier ensemble. Oui. Je crois que la difficulté, c'est s'ils négocient chacun séparément, ils ont une force de frappe qui est moins bonne. S'ils arrivent à se mettre ensemble et à revenir vers les compagnies en leur disant, ben voilà, il y a tel marché, parce que ce qui intéresse probablement une compagnie, c'est la taille du marché. Là, il y a des possibilités de négociation différentes.
Enfin, une question sur l'éducation sanitaire. Je prends deux exemples. Un exemple en Afrique où je connais une association, d'ailleurs d'origine anglo-américaine, je crois, dont tout le travail consiste à produire des petites fictions radiophoniques qui sont ensuite diffusées par radio à travers le pays. Et le but de ces fictions radiophoniques, qui ressemblent un peu dans leur simplicité, sont plus intéressantes et plus utiles, mais à C'est beau la vie sur FR3, avec ce genre de personnages récurrents, très proches, enfin pas sans complications, faciles à identifier. Le but est de rendre compréhensible la nécessité de la prévention et notamment la nécessité de l'utilisation du préservatif. Et de l'autre côté, où en France, une association comme celle que dirige Hervé Latapie, par exemple, explique à propos du sida que les médicaments qui permettent aujourd'hui de soigner le sida, à condition de les prendre toute sa vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont provoqué des comportements, multiplication des comportements à risque, lesquels ont d'ailleurs provoqué deux choses. D'une part, la multiplication des maladies sexuellement transmissibles, non létales, qui sont connues depuis Flaubert et même avant.
Avant.
Les anciens pharaons.
Au passé.
et même avant eux. Et non seulement la multiplication de ces maladies-là, mais même en plus, ont facilité chez certains laboratoires, soutenus d'ailleurs curieusement par certaines associations normalement à but non lucratif, mais abondamment arrosées par ces laboratoires en question, l'idée que, il n'y a plus à faire attention d'aucune sorte et allons-y gaiement. Quel est votre commentaire sur ces deux questions d'éducation sanitaire?
Alors, la situation... pour moi, l'essentiel de mon travail est dans les pays du Sud, hein, donc ce sont des contrées que je connais mieux. Le travail à faire est considérable. On a malheureusement un déficit fort en sciences sociales parmi les chercheurs, hein, qui m'entourent,
pour appréhender ces questions de quelles sont les meilleures façons de véhiculer des messages de prévention. Parce que dès que vous commencez un petit peu à creuser la question dans des pays, vous vous rendez compte que la représentation des maladies est totalement différente de celle que nous, on connaît. Pour comprendre l'intérêt d'un préservatif, il faut comprendre que le virus est dans les parties génitales et se transmet avec l'acte sexuel, etc. Mais vous pouvez vous retrouver dans des régions d'Afrique où la compréhension de la maladie ou de sa transmission est totalement différente. Donc, je crois que là où nous, en tant que chercheurs, on a vraiment à se mobiliser et à beaucoup mieux s'organiser, c'est introduire les sciences sociales, l'anthropologie médicale et toutes ces approches pour beaucoup mieux communiquer avec les populations et comprendre comment faire passer des messages de prévention. Et il y a des exemples que vous citez qui sont des réussites, mais l'évaluation de l'impact réel de ces formes de communication, à ma connaissance, n'a pas vraiment été faite. On l'a beaucoup compris aussi avec le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. On a vu le décalage complet qui existait entre ce que nous on savait par rapport au risque de transmission et comment l'organiser, et puis la façon avec laquelle les populations le percevaient. Il y a eu un massacre de 8 agents de santé en Guinée dans une petite communauté autour de l'histoire de sorcellerie. Ils étaient arrivés, ils parlent dans une école, et puis tout d'un coup, la conversation part en vrille, des hommes arrivent avec des machettes, et les 8 ont été tués. Vous voyez, donc ça a été... Et tout ça autour de phénomènes de sorcellerie, ces personnes nous amènent le virus, enfin, ils n'amènent pas passer un virus, la maladie, etc. Donc moi je pense que sur cette... on le réalise de plus en plus, hein, il y a un travail très fort à faire d'éducation et de formation, et qui s'appuie sur les sciences sociales, et c'est aussi vrai pour les pays du Nord. Je pense qu'on est... ce sont des disciplines qui sont négligées dans le domaine scientifique, relativement peu considérées, et qui ont une place essentielle à jouer entre la transmission du savoir aux populations et la meilleure façon de le faire.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je voudrais revenir sur la déclaration qui est effectivement scandaleuse sur le mécanisme de formation des prix. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est évidemment un objet de scandale évident pour tous ceux qui l'entendent. Un médicament, un traitement qui ne coûte presque rien, qui est vendu de façon absolument à des prix astronomiques, avec tout un tas de gens qui ne peuvent pas y accéder. Ce scandale, comment est-il possible ? Je sais bien que maintenant, on a décidé dans l'enseignement secondaire de supprimer l'analyse de la formation des prix dans les cours d'économie, ce qui est effectivement pour alléger le programme. On peut d'ailleurs considérer que ça allège considérablement le programme, que d'éviter les problèmes de marché de formation des prix quand on aborde les questions économiques. Mais là, je voudrais savoir comment ça s'explique. Comment ça peut être toléré politiquement ? Est-ce que c'est un défaut de concurrence entre les labos, parce que a priori, si un écart aussi grand entre le prix de vente et le prix et le prix de fabrication et le prix de production devrait générer de la concurrence, est-ce que c'est un écart de prix à la marge, c'est-à-dire est-ce que c'est le prix de la dernière unité produite du médicament, mais derrière il y a eu tout un ensemble d'investissements, de frais fixes, etc., qui justifie d'ailleurs les brevets, enfin le fait que tel médicament est breveté et captif par le laboratoire, ou est-ce que c'est carrément un abus de pouvoir avec des comportements oligopolistiques de la part des laboratoires, comme on le voit par exemple, quelqu'un comme John Le Carré fait pas mal de littérature avec de bonnes qualités d'ailleurs là-dessus, et c'est un peu le sentiment qu'on a. Donc je voudrais savoir comment vous réagissez, parce qu'on a quand même, ou alors est-ce que simplement il y a effectivement un coût très élevé quand on introduit les frais fixes, et puis simplement, on dit que quand on vend 80% très cher un produit, on peut se permettre, à titre d'action sociale, si vous voulez, d'en vendre 20% au coût de production marginale. Et donc, on fait ça pour les Égyptiens, comme dans l'exemple que vous dites. Mais il y a quelque chose d'absolument intolérable, apparemment, et qui doit donc soit s'expliquer, soit se combattre.
Arnaud Fontanet.
Alors, le modèle qui existait auparavant était que pour, je ne connais pas vraiment les chiffres, mais on va dire 100 000 molécules testées à un moment ou à un autre, identifiées comme potentiellement intéressantes, il n'y en aurait qu'une seule qui finit par arriver sur le marché, avec tout un processus d'expérimentation qui commence d'abord dans ce qu'on appelle in vitro, dans l'éprouvette, puis après sur le modèle animal, puis après on arrive sur les premiers essais chez l'homme, et puis on finit par le fameux essai de phase 3 où vous mesurez l'efficacité de votre nouvelle molécule sur des milliers de personnes, vous en faites 2 ou 3 pour confirmer vos résultats, et enfin vous pouvez vendre. Et tout ça, ça a un coût considérable. Donc ce que les laboratoires ont beaucoup fait, c'était d'argumenter sur l'idée que voilà, il y avait beaucoup de travaux de recherche initiés sur des molécules qui vont jamais aboutir, seuls très très peu de molécules finissent, et c'est recouvrer tous les frais de développement des molécules qui n'ont pas abouti, qui explique le prix auquel la molécule est finalement vendue le jour où elle est accessible sur le marché. Ce modèle a quand même pas mal changé, parce qu'aujourd'hui...
L'exemple que vous donnez tout à l'heure montre que c'est pas ce modèle-là qui fonctionne.
Le sofosbuvir, ce qui s'est passé finalement, c'est que le laboratoire Gilead a racheté une compagnie qui avait découvert le concept et cette molécule à un moment où cette petite compagnie avait finalement été passée en phase 2. Quand on est donc les essais chez l'homme, on voit que la molécule est bien tolérée et qu'il commence à y avoir une efficacité très prometteuse. Et là, ils ont décidé, on achète cette compagnie. Ils l'ont acheté d'ailleurs 12 milliards de dollars. Et donc, vous voyez le coût auquel ils ont dû acquérir cette compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de laboratoires fonctionnent de la même façon. Ils ont diminué leur département recherche et développement, et ils sont aujourd'hui en train de faire une veille sur les produits qui sortent de petites compagnies qui deviennent de plus en plus nombreuses, parce qu'aujourd'hui, la simplification de la recherche en laboratoire permet en fait à des petits groupes...
De centralisation, oui.
Je ne veux pas dire dans leur cuisine, mais dans leur garage, de commencer, de tester. Ils arrivent, donc il y a plein de petites compagnies qui naissent un peu partout, aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Inde. Et finalement, c'est une surveillance de ces compagnies, des molécules qui deviennent prometteuses, qui font qu'à ce moment-là, ils décident, tiens, on va arracher celle-là. Donc les risques sont pris par ces petites boîtes, dont beaucoup finissent par capoter parce que leur produit ne sort pas. Il y en a une ou deux qui marchent, et là, le rêve de toutes ces petites boîtes, c'est d'être acheté par un géant qui, et à ce moment-là, de rentrer dans une négociation qui devient, et qui amène à des prix de 12 milliards pour le sofosbuvir. Et c'est finalement, c'est cet investissement-là que Gilead...
On vend la molécule, on ne vend pas l'entreprise, en réalité.
Voilà, et Gilead, c'est ce prix-là qu'elle cherche à rentabiliser après avec le choix de vendre. Donc on est sur un nouveau modèle finalement d'émergence des nouvelles molécules, et c'est ainsi qu'on en arrive au prix que je vous citais, parce que le marché potentiel d'une molécule pour l'hépatite C était considérable, et la molécule très prometteuse, et ils ont et je crois que la première année d'ailleurs Gilead s'est remboursé.
Nicole Desotto.
Oui, moi je voudrais revenir sur la France, et en particulier sur l'Institut Pasteur et l'excellence qui est reconnue à cet institut en matière de lutte contre les virus et autres maladies rares. Donc il y a peu de domaines d'excellence en France en ce moment, donc on peut s'en féliciter, mais je voudrais essayer de comprendre pourquoi l'Institut Pasteur est considéré mondialement comme un des meilleurs. Alors évidemment, il y a la tradition Pasteur, mais est-ce que ça réfère aussi à une forme d'organisation de la recherche scientifique en France? Et si c'est le cas, est-ce que cette forme d'organisation est menacée? Est-ce que l'État investit suffisamment pour maintenir l'excellence de l'ensemble de ses laboratoires de recherche par rapport à la concurrence qui existe certainement aux États-Unis? Vous avez parlé de la Chine, peut-être qu'elle existe désormais aussi en Chine. Autrement dit, est-ce que cet atout français en matière scientifique et en matière économique aussi, est-ce que cet atout est considéré comme tel par le gouvernement? Est-ce qu'il y a une diplomatie d'ailleurs sanitaire de la France qui lui donnerait un poids particulier aussi dans l'OMS? Autrement dit, est-ce comment comprendre cette excellence et surtout, est-ce qu'elle est durable?
Arnaud Fontanet.
Alors, l'Institut Pasteur est effectivement un statut particulier. C'est une fondation privée d'utilité publique. Le gouvernement, le financement récurrent du gouvernement est de 20%. Il avait d'ailleurs été fixé en 1974 par Simone Veil, qui avait proposé une dotation fixe du gouvernement qui n'a pas changé depuis. Mais le budget de Pasteur a beaucoup cru depuis, donc cette dotation ne représente aujourd'hui que 20% de l'ensemble de notre budget. On vit beaucoup des brevets, donc il faut quand même, pour nous, reconnaître l'importance de pouvoir valoriser les découvertes scientifiques que nous faisons. Ce sont sur des découvertes en amont. Hein. C'est un institut de recherche fondamentale pour beaucoup, donc on n'est pas du tout sur des brevets. On travaille avec des compagnies qui vont, à partir de ces recherches en amont, développer le produit, le vaccin ou le test diagnostique qui sera utile aux populations. Mais nous, on n'a pas du tout cette capacité de développement derrière. Donc, c'est le concept très initial qui est vendu. Et puis, on vit aussi de la générosité des donateurs. Et j'ai envie de dire, pour faire simple, on a un tiers qui vient de la générosité des donateurs, un tiers qui vient des brevets contre-industriels, et puis un tiers de notre financement qui sont la dotation fixe du gouvernement, puis l'argent qui est gagné avec les appels d'offres sur les ce qu'on appelle des grants, où on est en compétition à l'Union européenne et ailleurs pour des financements sur des projets scientifiques. Donc c'est un modèle qui fonctionne, qui est... peut-être fragilisé au niveau des brevets, par exemple, parce qu'on est aujourd'hui, on s'est appuyé sur le brevet de la découverte du virus du sida, qui a été effectivement une manne très importante, mais qui va bientôt se terminer, sur la découverte du vaccin d'hépatite B aussi, qui était un des vaccins très utilisés et très importants. Donc il faut qu'on soit en perpétuel renouvellement. L'autre caractéristique de l'Institut, et qui, je crois, participe à ce perpétuel renouvellement, c'est son côté très international. Il y a d'une part un réseau de 33 instituts dans le monde. Il n'y a aucun institut de recherche au monde qui puisse dire qu'il a 33 antennes dans le monde entier, ce qui est une force en termes de représentation géographique. Et dans la forme de recrutement, à l'Institut Pasteur, nous avons la moitié de nos chercheurs sont étrangers, et le recrutement se fait par appel d'offres international. Chaque année, on recrute des chercheurs de 35 ans. Quand ils ont, en fait, ils sortent de leur doctorat, ils ont fait un ou deux post-doctorats, ils ont extrêmement bien marché dans un labo X ou Y dans le monde, et on a un appel d'offres international où ils sont plus d'une centaine à rentrer en compétition, on en prend deux ou trois chaque année, et on leur donne cinq ans les moyens de faire leurs preuves pour montrer que les découvertes qu'ils ont faites quand ils étaient encore jeunes scientifiques ne sont pas... un cas isolé, mais qu'ils ont vraiment la capacité d'être des futurs responsables d'unité. Et ce mode de recrutement très international contribue beaucoup, je trouve, à en faire un institut très particulier et intéressant, avec évidemment un nom, hein, Institut Pasteur, qui est connu partout dans le monde et qui nous donne une visibilité autant importante quand il s'agit de faire venir des talents à l'Institut que par rapport aux donateurs qui sont prêts à lui faire confiance.
François Bujon de l'État.
Alors, une question qu'on a à peine effleurée tout à l'heure et qui est importante, je vois, vous écoutez, que nous avons énormément à faire avec les pandémies naturelles, mais quid des pandémies artificielles? Le terrorisme bactériologique est-il une crainte apocalyptique, un scénario de science-fiction ou une vraie menace?
Arnaud Fontanet.
Alors, jusqu'à présent, il n'a pas très bien fonctionné, le terrorisme bactériologique. Il y a quelques exemples qui sont restés heureusement des anecdotes. Il y a eu notamment autour de l'anthrax, à deux reprises, la maladie du charbon, une bactérie qui est potentiellement mortelle chez l'homme. En 1979, en Ukraine, à l'époque de l'URSS, il y avait un laboratoire où il manipulait les spores de cette bactérie pour les rendre plus petites, afin qu'elles puissent pénétrer plus profondément dans les poumons, parce qu'à ce moment-là, elles avaient une meilleure pénétration et elles remplissaient mieux leur fonction. Et à un moment, en travaillant sur le laboratoire, ils ont, dans la maintenance du flux laminaire, ils ont oublié de fermer un filtre et hop, la bactérie s'est disséminée, il y a eu une soixantaine de morts. Alors c'était la période de la guerre froide, on a raconté que c'était des contaminations animales, etc. Mais après la chute du mur de Berlin, des experts russes et américains sont revenus voir les lames d'histologie des patients et ont conclu que c'était effectivement issu du laboratoire incriminé.
C'est si rapide que ça, l'anthrax?
Alors l'anthrax, ça prend ça prend un peu de temps, quelques jours, mais là où on a entendu à nouveau parler de l'anthrax, c'était après le 11 septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est aux États-Unis, où dans des circonstances qui n'ont pas été complètement élucidées, un chercheur a utilisé des spores d'anthrax et les a envoyés dans des enveloppes, à la fois à des journalistes connus et à, je crois, des membres du Congrès. Et donc ça, c'est des exemples...
Mais ça n'a pas marché du tout.
Alors, c'est juste que ça a été très local comme diffusion. Si le scénario catastrophe, c'est
L'impact psychologique avait été considérable.
Le petit avion qui vaporiserait des spores, etc. Mais là encore, par rapport à l'anthrax, c'est une maladie qui se transmet pas d'homme à homme. Donc à partir du moment où les personnes sont touchées, mais il n'y a pas de diffusion secondaire. Heureusement, on n'a pas encore eu d'exemple de... Mais une fois de plus, c'est... la question est... D'un laboratoire, d'un pays malfaisant, etc. Possible, mais c'est pas forcément ce qui nous inquiète le plus. Il y a eu, vous avez dû en entendre parler, des inquiétudes par rapport au virus de la grippe, avec notamment des chercheurs néerlandais et japonais qui se posaient la question par rapport au virus de la grippe aviaire, qui a une mortalité extrêmement forte, mais qui est pas transmissible d'homme à homme, de savoir si quelles étaient les mutations qui permettraient de le rendre transmissible. Donc ils ont un modèle animal qui est le furet, et ils ont, après quelques mutations sur des virus de la grippe chez le furet, montré qu'il pouvait augmenter sa transmissibilité. Et là, il y a eu un vrai débat dans la communauté scientifique sur comment est-ce qu'on se protège par rapport à de la manipulation de virus dans des laboratoires qui sont à la fois bien protégés, mais bon, les accidents ne sont pas impossibles, mais aussi jusqu'où les chercheurs peuvent aller dans ce type d'expérimentation parce qu'il y a un risque potentiel important. Bon, là, des décisions ont été prises sur le nombre de laboratoires qui pouvaient manipuler tel type de virus et les choses sont de plus en plus contrôlées. Les mesures de protection qu'on prend sont absolument draconiennes. Hein. Sur un institut Pasteur à Paris, par exemple, on n'a pas d'ailleurs la possibilité de manipuler des agents considérés comme extrêmement dangereux. Le laboratoire qui le fait est à Lyon, c'est le laboratoire P4 qui est à Lyon, où l'INSERM et l'Institut Pasteur collaborent et c'est là où avait été isolé le virus Ebola, par exemple. Donc là, il y a un laboratoire de très haute sécurité sur les agents qu'on manipule à l'Institut Pasteur à Paris le risque est faible et les conditions de sécurité d'encadrement sont draconiennes.
Vous venez de parler de l'anthrax, on peut évoquer le gaz sarin tant qu'à être dans les joyeusetés qui nous sont éventuellement promises.
On n'est plus dans les maladies infectieuses. Donc...
Mais on est dans la police sanitaire. C'est pour ça que le gaz sarin se transmette de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'homme. Je ne le croyais pas, si faible que soit ma formation scientifique. Mais j'y pensais à cause de la question de police sanitaire que vous venez d'évoquer, en indiquant que le niveau de sécurité vous paraissait très élevé.
Le problème, je pense, de ces agents infectieux qui pourraient être détournés et que vous contrôlez absolument pas ce que vous êtes en train de faire, vous-même en tant que terroriste. Alors après, quand vous avez des gens qui sont effectivement capables de se faire exploser et qui, pour qui ça n'est plus une question de survie individuelle, on peut craindre le pire comme avec la menace nucléaire, etc. Mais en tant que... Je trouve que... C'est vraiment un outil très difficile à manipuler pour arriver à ses fins et qu'il y a des choses beaucoup plus simples, malheureusement, qui sont aujourd'hui disponibles dans l'arsenal des personnes malfaisantes pour arriver à faire des dégâts dans les populations.
Ou des états terroristes qui ont les possibilités ou les moyens de prendre des mesures coordonnées.
Un état comme la Corée du Nord, est-ce que la Corée du Nord a des moyens de...
À
des laboratoires de cet ordre.
Je n'en sais absolument rien. Oui. Mais les compétences scientifiques ne sont probablement pas réunies.
Arnaud Fontanet, merci d'être venu nous éclairer sur des sujets dont il est rare d'entendre parler de manière aussi claire. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet. La semaine prochaine, c'est donc la dernière, l'ultime des émissions des séries thématiques d'été. Elle sera consacrée à la gouvernance monétaire mondiale et nous recevrons Jacques Mistral, économiste, pour essayer d'éclairer ce sujet épineux. Mais autant aborder les sujets épineux avant que l'année ne commence. J'espère en tout cas vous retrouver pour cette dernière émission de cette série thématique d'été de 2015-2016.